Premier sujet, M. McSween, la volonté de Québécois de faire financer en partie, là, par des subventions, l'électrification de ses véhicules chez Vidéotron.
Oui, et j'ai toujours le même réflexe comme CPA, c'est de dire, regardons ça dans une analyse rationnelle. Quelles sont les raisons d'aider une entreprise? Il y en a deux. La première raison, c'est parce que c'est un organisme ou une entreprise qui a une mission qu'on veut supporter, mais qui n'a pas les moyens de vivre par elle-même. On s'entend, ce n'est pas le cas de Québécois. Ou orienter le comportement vers des meilleures décisions corporatives pour le bien-être collectif. Ça pourrait rentrer là-dedans. Deuxième critère de réflexion, le besoin d'aide. Là, je devais voir l'État financier de Québécois, Paul. Pour les 9 premiers mois de l'année, OK, avec l'État financier qui se finit le 30 septembre en 2019, Québécois a généré seulement en bénéfice net, donc après impôt, 508 millions de dollars. Évidemment, Québécois aurait vraiment besoin du 5 millions pour électrifier ses transports. Tu sais, ça pourrait vraiment l'aider à changer sa décision. Parce que si tu regardes l'information sectorielle, Vidéotron représente 1 340 millions sur 1 385 millions du bénéfice opérationnel de l'entreprise. Et les véhicules d'une entreprise sont déductibles d'impôt sur la période d'amortissement. Et donc, l'entreprise profite déjà du fait que dire, ben, de toute façon, les véhicules sont déductibles dans une entreprise si on s'y subventionne en plus, ce qui est le cas des fois dans la subvention régulière. Mais si tu veux ajouter le fonds vert pour des véhicules spéciaux, là, tu te dis, coudon. La question suivante, ça va-tu changer le comportement de Vidéotron? Alors, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, si le gouvernement Legault dit non, est-ce que Vidéotron va juste continuer avec l'essence ou va avoir un avantage très précis à réduire sa consommation d'essence là, et avoir une meilleure image corporative?
Il y a deux questions pour toi. La première, oui. Là, les subventions, ça se donne pas comme ça parce que tu t'appelles Pierre-Carl Péladeau, tu t'appelles je sais pas qui. Là, il y a des critères, non?
Ben, un, faut que tu sois un bon lobby. Il y a les critères de subvention de base, comme tout le monde a pour les véhicules électriques. Tu sais, que dans le fond, tu achètes un véhicule électrique, tu as des subventions, que tu sois incorporé ou non, c'est pas ça le point. Mais pour le fonds vert, lui veut, selon ce qu'on voit dans la presse, extrapoler le fonds vert avec les véhicules en disant, pour les véhicules qui n'entrent pas dans la subvention, on peut-tu avoir des subventions du fonds vert, comme une décision corporative.
Okay.
Mais la question, c'est, si t'es Vidéotron, puis t'as la chance d'électrifier tes transports à un prix raisonnable avec la déduction fiscale, puis d'avoir une belle image corporative, pourquoi tu t'en servirais pas, et pourquoi tu vas têter 5 millions? Tu sais, c'est ça, moi, c'est ça le point. 5 millions pour 508 millions de bénéfices nets pour 9 mois.
Et là, sur le plan personnel, M. Péladeau veut aussi de l'argent pour ses taxis, là.
Oui, et qui est une autre affaire. Moi, si j'étais lui, les taxis, ce que je ferais, c'est que je prendrais un modèle traditionnel, c'est-à-dire, je pars à une compagnie de taxi électrique, je fournis les infrastructures, mais chauffeur de taxi, vous allez acheter vous-même votre voiture électrique, mais je vais vous donner des recharges quand elle sera autonome pour une journée, ce qui va arriver d'ici 2-3 ans. Donc, c'est peut-être ça le prochain modèle, mais on va pas encore financer un autre modèle de taxi, tu sais. En tout cas, c'est sûr que ça aide à l'environnement, mais il y a vraiment une question de réflexion de dire, on est-tu en train de subventionner Québécois pour vrai en plus? Tu sais, il y a toujours bien de m'amener une limite de subvention. Parce qu'après ça, le dépanneur du coin qui peut dire, hey, moi, j'encourage les gens à faire du commerce de proximité. Grâce à moi, ils prennent pas leur voiture. Et donc, je contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Et par conséquent, on devrait subventionner mon jus d'orange.
Mais ça, dans l'ancien fonds vert, ça aurait passé.
Dans l'ancien fonds vert, on va dire, ben, les affaires qui passent. Est-ce que tu produis des déchets de papier? Non, je suis électronique. Parfait, t'es verte. Tu comprends-tu?
Achète-toi, on va te payer un ordinateur.
Puis tu sais, moi, je travaille de mon sous-sol, fait que j'ai un fond vert, moi, là. Je devrais faire une demande au fond vert, je prends pas ma voiture.
Ça pourrait passer.
Ouais, je pense que oui.
Bon, tu veux me parler un peu d'assurance aussi?
Oui, oui, parce que j'ai beaucoup de questions sur les assurances. Et les gens veulent des questions puis des réponses générales à des situations personnelles. Et oui, l'assurance vie, c'est important quand t'as des enfants, puis si jamais tu meurs, faut qu'il y ait un salaire pour payer leur avenir. Mais disons, parlons des deux autres assurances qui posent beaucoup de questions. L'assurance invalidité puis l'assurance maladie grave. Je commence par invalidité. Je te parle de mon cas parce que je suis un bon exemple de bonne et de mauvaise décision. Quand j'avais 26 ans, je suis devenu travailleur autonome. J'ai quitté une firme comptable, Ernst & Young, pour devenir travailleur autonome dans le milieu bancaire.
Okay.
Donc, j'étais consultant. J'étais allé me chercher une assurance invalidité à 70$ par mois pour couvrir le fait que je pourrais me blesser et devenir quadriplégique. Tu comprends? Fallait que je mange. Et à un moment donné, je suis devenu salarié à quelque part et je me suis dit, ah, je ne serai plus jamais travailleur autonome à 100%. Et donc, j'ai annulé mon assurance invalidité et j'ai eu mon assurance de salarié. Et quand t'es salarié, tu te rends pas compte à quel point les assurances de l'employeur sont payantes parce qu'elles sont collectives, elles coûtent moins cher. Et là, je suis redevenu par hasard travailleur autonome par le détour du hasard. Et là, je m'informe pour me réassurer au niveau de l'invalidité, Paul. Et là, là. Là, on n'est plus à du 70$ par mois.
Oui,
on est rendu à du 200, 225 par mois.
Aïe, aïe.
Pour une couverture qui est inférieure à mon salaire, tu comprends? Donc, L'assurance invalidité, c'est important parce que si jamais tu perds ta job parce que tu deviens quadriplégique ou malade de façon physique, tu peux plus travailler. Faut que tu puisses manger. Alors, c'est l'assurance la plus importante, bien avant l'assurance vie, selon moi. Pour l'assurance maladie grave, c'est une autre affaire. Parce que l'assurance maladie grave, c'est un paiement forfaitaire si jamais tu tombes malade. Exemple, j'ai un cancer demain, si j'ai une assurance maladie grave, je pourrais recevoir, par exemple, 50 000 $. Mais plus tu vieillis dans la vie, plus l'assurance maladie grave est moins utile si tu as bien géré tes affaires. Parce que quand on y pense, quand tu as 20 ans, l'assurance maladie grave, tu peux dire « Ouais, si j'ai un cancer à 25 ans puis ça m'empêche de travailler pour 2 ans, j'aimerais ça avoir de l'argent. » Vrai. Mais si tu es rendu à 30, 40 puis 50 ans, tu as des REER. Donc, disons que tu pognes un cancer, pendant 1 an, faut que tu fasses faire des traitements, pognes tes REER puis tu feras ça, puis si tu es malade sur 5 ans puis tu meurs au bout, tu vides tes REER puis tes enfants auront l'assurance vie. Donc, la maladie grave, plus tu vieillis, plus tu fais de l'auto-assurance et moins ça devient logique. Mais avant de prendre une décision d'assurance, parlez à votre conseiller. On en parle de façon générale ici.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. À vous. 7h21.